Amen, c'est dans Luc 1 que nous allons ce matin pour le message. Et on va lire, vous savez, c'était quand même assez diversifié, là. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient dans ce chapitre-là. On va vraiment se concentrer sur les versets 26 à 38 pour le message. J'aimerais lire à peu près la moitié du passage parce qu'on va, se concentrer à partir du verset 30 surtout. Mais pour avoir un peu de contexte, on va lire à partir du verset 26. Après quoi, je vais prier, puis je vais vous partager quelques vérités sur la fidélité du Dieu de l'incarnation ce matin. Au sixième mois, ça c'est le sixième mois de la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Seigneur, on va considérer ces versets au-delà aujourd'hui. À deux reprises, l'ange lui dit qu'elle a trouvé grâce, qu'elle est favorisée, qu'elle est désignée par Dieu pour une mission bien spéciale. Et nous savons que c'est celle de porter le Sauveur, Jésus, le Seigneur, Dieu fait homme. Et Seigneur, on veut s'en remettre à toi pour que ta grâce, qui est toujours aussi vivante et efficace, Jésus lui-même, la grâce de Dieu manifestée pour tous les hommes, qu'elle puisse aujourd'hui avoir une pleine liberté parmi nous. Que Jésus qui vit, qui règne, puisse en ce moment, Seigneur, avoir le plein contrôle. On s'en remet à toi, Seigneur. On lâche toute emprise qu'on peut avoir. On veut délier nos mains, Seigneur, qu'on puisse être libre de recevoir tout ce que tu as pour nous, Seigneur, et on veut s'ouvrir à toi, que tu aies la pleine liberté, Seigneur, de tout faire ce que tu veux faire aujourd'hui dans cette réunion, dans ce temps, dans ta parole maintenant. On s'en remet à toi, Dieu fidèle, le Dieu fidèle de l'incarnation. Au nom de Jésus. Amen. La fidélité du Dieu de l'incarnation. Et je dirais qu'ici, on a une démonstration très spéciale et unique de la fidélité de Dieu, parce que dans le grand plan de la rédemption, bien ici, on est à un moment tellement important, la venue du Messie, celui qui avait été promis depuis si longtemps. Et on pourrait dire que c'est la démonstration ultime de sa fidélité, hein, par l'œuvre, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et ça demandait une foi à travers toutes les époques, une foi de la part de tous ceux qui entendaient cette nouvelle. Ésaïe, hein, qui dit, « Va vous donner un signe, la Vierge deviendra enceinte et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Mais notre chère Marie ici était spécialement appuyée à faire confiance à Dieu avec quelque chose qui n'était jamais arrivé dans l'histoire. La grande promesse du Rédempteur, de celui qui a été promis depuis 4000 ans, et qui là ici était vraiment à son accomplissement, l'heure était venue. C'est drôle parce que ça se passe dans le contexte très ordinaire. Là-dedans, là, il n'y a pas de tambour ni de trompette. C'est une femme ordinaire d'abord. Okay? Elle n'avait rien de spécial par rapport aux autres. Dans une place ordinaire, un petit village de la Judée. Puis dans des circonstances ordinaires, avec 400 ans qu'il y avait du silence, et pas comme si là, il y avait eu des choses si hors de l'ordinaire. Mais pourquoi je souligne ça? Parce que le Dieu extraordinaire aime faire briller sa lumière, la splendeur de sa gloire dans le fond, la toile de fond de l'ordinaire de l'expérience humaine. Dieu aime ça faire ça. Ça nous dit en fait, dans 2 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dieu aime faire briller sa gloire dans la toile de fond de l'ordinaire de l'expérience humaine. Et c'est ça aussi l'essence de la grâce. Et la grâce de Dieu, elle est totalement manifestée et déclaré dans la personne de Jésus-Christ qu'on considère aujourd'hui, mais ici, dès sa conception. Donc, c'est ça l'idée quand on parle de l'incarnation. Incarnation dans la chair, Dieu qui est devenu un homme, aussi invraisemblable que ça puisse être, c'est arrivé. Et c'est ce qu'on va considérer ensemble avec trois grâces de la fidélité du Dieu de l'incarnation. D'abord, la première grâce, la grâce de sa faveur. On a ça ici au verset, on l'avait d'abord dans l'annonce du verset 28, l'ange rentra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Et c'est répété au verset 30, l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Une expression qu'on voit souvent dans la Bible, « trouver grâce », on voit ça dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Mais ici, l'idée, c'est vraiment, elle était favorisée d'entre toutes les femmes sur la terre, elle a été celle qui était désignée pour porter le Sauveur, Jésus, qui est né comme ça à travers l'instrumentalité de cette femme, Marie. Et ici, on peut avoir, avec cette proclamation de l'ange, un ange qui y apparaît comme ça, l'assurance de la parole de Dieu qui proclame que Dieu, dans sa grande fidélité, accomplit ce qui avait été dit depuis tellement d'années. En fait, depuis le tout début. Et comme Dieu aime tellement souvent le faire, il prend une personne ordinaire, une femme qui était commune, qui n'avait rien, c'était pas la royauté, une femme de haute naissance au vu issue des hommes. Elle était même vue d'être plutôt d'une basse classe. On l'apprend du fait que lorsque c'est le temps qui offre, quand Jésus est né, quand c'était le temps qui offre ce qui était prescrit par Moïse, ils ont pris des pigeons. Donc, c'était pas des gens qui étaient assez riches pour s'acheter un agneau. Donc, c'est ça. Et ça va très bien avec ce que la parole de Dieu dit ailleurs dans 1 Corinthiens, que celui qui se glorifie pas de son intelligence, de sa sagesse, de ses richesses, mais d'avoir de l'intelligence et de connaître l'Éternel. C'est le pattern de Dieu qui prend des simples vases de terre pour que lui soit mis en évidence. Lui, le Dieu extraordinaire. Lui, le Dieu glorieux. Et là, je veux m'arrêter un peu parce qu'il y a là une joie inouïe. Il y a là une paix, un bénéfice de découvrir et d'accepter notre identité en Jésus-Christ. Le fait que notre identité ne nous est pas venue par le fait qu'on ait fait des exploits extraordinaires, qu'on soit d'une naissance élevée dans ce monde et tout ça. Non, notre identité, elle est donnée. Comme ici avec elle qui a été désignée pour être celle-là qu'elle est, la mère du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour nous aussi, Dieu nous donne une identité. Et savez-vous quoi? On peut se réjouir de ça. C'est-à-dire que oui, dans les circonstances qu'on a, mais même dans nos faiblesses, dans les choses avec lesquelles on peut lutter dans notre vie, on peut se glorifier du fait que Dieu, c'est précisément là qui fait éclater sa gloire, qui fait travailler sa grâce. Comme le fameux passage le dit dans 2 Corinthiens 12, « Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est ça la grâce de sa faveur, c'est pas d'avoir été à la hauteur de tout avoir mérité, mais d'avoir un Dieu qui, dans notre faiblesse, nous rencontre là où on est et nous donne sa grâce, qui est toujours suffisante. Ça, c'est un premier aspect de ce qu'on voit dans la grâce de sa faveur, mais ça continue parce qu'au verset 31-33, l'ange donne plus de détails sur la situation, et exactement c'est quoi ça veut dire avoir la faveur de Dieu. Donc, ça va se décliner comme ça. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, ça veut dire sauveur. Il sera grand, ou ça veut dire l'Éternel sauve, là. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Wow, c'est pas un petit gars ordinaire, ça là. OK? La faveur de sa grâce, c'est celle de l'accomplissement de ce qui avait été promis. Ici, là, il y a un fondement biblique et prophétique qui est évident. Là. Les paroles de l'ange, ça nous ramène à tout ce qui a été annoncé par les prophètes, mais même dès le début. Connaissez-vous Genèse 3:15? La fameuse promesse, dès que le péché est rentré dans le monde, Dieu a promis ceci. Il a dit, je mettrai, il parle à Satan, je mettrai entre toi, je mettrai inimitié, pardon, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est ce qu'on appelle le proto-évangile. L'essence de l'évangile est là. Et le miracle de l'incarnation impliquait comme ça, comme ça dit ici, la femme. Ça fait partie justement de ce que Dieu allait faire, qui était miraculeux, d'avoir comme ça la femme impliquée dans la naissance du Sauveur sans l'intervention humaine. Et c'est ça le miracle de l'incarnation. Et pour faire un parallèle un peu avec nous autres, parce que ça, on est dans le domaine physique, elle est devenue enceinte, et ce n'était pas par les moyens naturels. Et pour nous, littéralement aussi, parce qu'elle, elle était participante des promesses de Dieu, bien nous aussi, en Jésus-Christ, là je vais faire un parallèle entre le physique puis le spirituel, en Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous sommes participants des plus grandes et des plus précieuses promesses. Fait qu'on peut dire un peu comme... ici, oh wow, hey, elle s'est fait dire qu'elle allait être celle-là, qu'elle allait être bénéficiaire de toutes ces promesses qui avaient été dites sur le Messie, puis là, ça va arriver en toi. Ben, c'est quoi? C'est vrai aussi pour nous. Spirituellement, toutes les plus grandes et les plus précieuses promesses, c'est pas moi qui l'invente, là, ça dit ça dans 1 Pierre, dans 2 Pierre, pardon, au chapitre 1 et verset 4, ça dit que quand on connaît Dieu, qu'on est appelé par sa gloire et sa vertu, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que vous deveniez, que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Littéralement, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, par notre union avec lui, on est participants comme ça de la nature divine même. C'est pas qu'on devient des petits dieux, mais c'est qu'on devient participant de ce plan rédempteur que Jésus vit en nous et que comme Marie a vécu ça physiquement, elle a donné naissance à Jésus, ben nous, on donne naissance à la vie de Jésus qui vit en nous. On porte le fruit de l'Esprit. Il y a toute cette réalité-là dans le domaine spirituel qui est tout à fait un parallèle exact. D'ailleurs, je vous donne ici un comparatif. Vous savez, là, ça va être la dernière fois qu'on le fait pour l'expression « let » en anglais, OK, « que ». Let your light shine, let, ok, vous savez de quoi je parle. Je vais faire un comparatif entre les lettres qui nous parlent de la puissance de Dieu, ceux qui sont vraiment juste ce que Dieu fait, mais aussi l'idée justement de la participation humaine dans cette dynamique-là, parce que nous sommes participants de la nature divine. Par exemple, au début, Dieu a dit que la lumière soit. Boum, la lumière était là. Pour les chrétiens, on a toutes sortes de let your light shine, let, ok, que, puis là, il y a les différents que de la vie chrétienne. C'est quoi la source pour ces que? Ben, pour la puissance de Dieu, c'est simplement sa voix, sa parole. Dieu prononce, c'est la voix omnipotente de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de création ex nihilo. À partir de rien d'autre que la puissance de sa parole, pouf, des choses sont créées, ok? C'est drôle parce que pour nous autres, c'est l'Esprit du Dieu vivant en nous qui amène cette vie surnaturelle. Il y a un peu cette création ex nihilo de quelqu'un qui était mort dans ses offenses et ses péchés. Maintenant, il est vivant en Jésus-Christ puis il porte du fruit pour lui. OK? Continue la comparaison. La nature du cœur, quand c'est la puissance de Dieu, c'est un décret de Dieu. Que la lumière soit. C'est non négociable, c'est le même, bang, la lumière arrive. OK? Pour ce qui est pour nous, participants de la nature divine, ben c'est la réponse de la foi qui va faire que ça va arriver. La grâce de Dieu est là, mais c'est par le moyen de la foi. La réponse de la foi à la grâce de Dieu va mettre en action ces choses. Comme je l'ai dit, la création c'était à partir de rien, ex nihilo. Ben pour nous, c'est Dieu qui nous transforme à partir d'un cœur renouvelé. En fait, il prend notre cœur de Pierre, puis il nous donne un cœur de chair. Il a créé quelque chose de nouveau en nous. Là où est-ce qu'il y avait la mort, il a mis la vie. Là où est-ce qu'il n'y avait pas de Dieu, il est venu habiter en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Encore deux éléments de comparaison. Quand le résultat des cœurs de Dieu, c'est qu'il y a eu l'apparition dans le domaine physique des choses, la lumière, les animaux, OK? Puis, vous savez c'est quoi le récit de la création? Ben, dans le domaine spirituel, le résultat des queues de Dieu, c'est la manifestation de la vie de Jésus, de la lumière de Christ en nous, elle va se manifester. Et par exemple, j'ai parlé de que la lumière soit dans l'acte créateur de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit, Jésus a dit dans Matthieu 5, que votre lumière luise. Dieu l'a mis, maintenant laissez-la luire. Et remarquez que tout ça, ça peut se résumer par les paroles qui sont si bien dites dans Éphésiens 1. Éphésiens 1, c'est super beau. Je vais lire les versets 5 et 6, mais je veux surtout attirer notre attention sur le verset 6. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Dieu accomplit sa parole en nous. On est favorisés, on a la grâce de sa faveur. Il a placé sa vie en nous. Et Marie, ici, elle l'illustre d'un moyen physique, là, OK? Dieu a placé la vie en elle, la vie de Jésus, OK? Elle est devenue enceinte de façon miraculeuse. Bien, nous, c'est pareil dans le domaine spirituel. Dans son plan, dans son amour, dans son plan rédempteur, Dieu a placé sa vie en nous pour qu'on puisse porter du fruit, accoucher de sa vie, qu'on puisse produire le fruit de sa grâce en nous. C'est ça, la grâce de sa faveur. Ça nous amène à la deuxième grâce qu'on va considérer ce matin, la grâce de sa certitude. Et là, remarquez le verset 34. Parce que là, il y a des grandes choses qu'on a vu, ce que l'ange a dit. Et Marie, de répondre au verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » C'est une question juste, une question honnête. Sur le comment ça va arriver, parce que ça, c'était jamais arrivé. C'est pas comme Zacharie qui s'est fait reprendre, parce que lui, quand il a posé sa question, il y avait un précédent. C'est pour ça que l'ange le juge et dit, « Tu vas être muet. » Pourquoi? Parce que Abraham, tu sais, leur ancêtre, avait eu la même situation, donc il pouvait se fier là-dessus. Pour ça, il dit, « Tu n'as pas cru. » OK? Mais pour Marie, c'était jamais arrivé qu'une femme ne connaissant pas d'homme devienne enceinte comme ça miraculeusement. Et donc, c'était quoi la question, c'est quoi qu'il y avait derrière cette question de Marie? Bien, c'était la reconnaissance de l'impossibilité humaine du projet de Dieu. Dieu, ce que tu demandes, c'est impossible, ça ne s'est jamais fait. Comment ça va arriver quelque chose de même? Okay? C'était le projet de Dieu, mais c'était certainement pas possible humainement, de s'accomplir. Puis là, c'est drôle parce que Dieu, tu sais, on a parlé d'identité dans le mois d'avril avec David, identité réelle, identité vraie, vous vous rappelez? Il y a de ça ici. Là, à la part du réel. Là, hein, moi, je suis une petite madame, puis tout ça, c'est pas normal que je tombe enceinte de même quand il n'y a pas d'homme dans l'histoire. C'était tout à fait réaliste, c'était tout à fait légitime. Mais là, Dieu l'amène à son identité vraie. Ouais, mais toi, tu es la mère du Sauveur. Tu es celle qui va porter celui qui est le Sauveur du monde. Ça, c'est mon projet pour toi. Ça, là, c'est la vérité, c'est ce qui définit. C'est pas juste ce qu'on voit au niveau humain. Les projets que j'ai pour toi sont flabbergasting. OK? Effectivement, c'est ce que Dieu avait pour elle, et c'était la vérité, même si ça pouvait être dur à croire. Puis là, on voit, regardez bien, verset 35, parce que là, pour répondre à sa question qu'elle avait au verset 34, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Donc ça, c'est l'explication. Intervention divine, surnaturelle. Autrement dit, c'est par la vertu du Saint-Esprit que tu vas devenir enceinte. L'intervention du Saint-Esprit, c'est ça, l'essence de la grâce de sa certitude. Comment je peux être certain dans ma vie chrétienne qu'il va y avoir de quoi de surnaturel qui arrive? Dieu, le Saint-Esprit, sinon, c'est quoi ma certitude que je vais porter du fruit surnaturel, que je vais avoir la paix lorsque je devrais être inquiet, que je vais aimer ceux qui ne sont pas aimables? La réponse, c'est une personne, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Puis c'est ça pour elle aussi, OK? C'est-à-dire la puissance, la capacité surnaturelle de ce qui serait autrement impensable ou impossible dans le domaine humain. N'est-ce pas l'idée de ce que, ici on parle souvent, Galates 2:20, c'est pas moi, c'est Christ qui vient en moi. Ça, c'est impossible. Ça, c'est pas une religion améliorée, c'est pas une philosophie humaine la plus élevée. Non, c'est surnaturel, c'est impossible à l'homme. Ou même marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Ça aussi, c'est surnaturel, c'est l'esprit, ou pour le dire dans les mots de Romains 8:2, la loi de l'esprit de vie en Christ qui m'affranchit de la loi du péché puis de la mort. Le fruit de l'esprit, j'en parle depuis tantôt, ça aussi. Toutes ces choses-là sont surnaturelles. C'est seulement Dieu qui peut le faire. Donc, voyez-vous encore le parallèle? Et il y a une certitude. OK, tu vas être enceinte, ça va arriver comme ça, bien, c'est pareil pour nous aussi. Si tu marches par l'esprit, tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. Tu peux en être certain. Si tu es rempli de l'esprit, tu vas porter le fruit de l'esprit. Tu peux en être certaine. C'est des choses qui sont des certitudes, la grâce de sa certitude. Et là-dessus, j'ai un autre « que ». Et j'ai l'habitude de dire « lettre » pour être sûr qu'on se comprend, là, mais un autre « que ». Tu sais, les « que » de la création, là, que la lumière soit, on en a parlé un peu tantôt, que si, que ça, OK. Dieu là, n'a rencontré aucune résistance lorsqu'il a créé. C'est pas comme si la lumière a dit « Ah, t'as pu, j'ai d'autres choses à faire, puis ça. » Non, le décret divin n'avait aucun obstacle, aucune résistance. C'est arrivé directement de main. C'est vrai dans le monde matériel, c'est comme ça que Dieu a fait le monde. Il a obéi instantanément. Zéro résistance. Parce que Dieu est la source. Et si... le Créateur n'était pas là, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas d'espoir, il n'y aurait pas de force. Et je veux faire un parallèle, parce que c'est quand même spécial que le monde physique n'a offert aucune résistance, aucune entrave à ce que Dieu a fait. C'est quand il a créé l'homme avec son libre arbitre qu'il a connu la résistance. Bon, on pourrait dire, OK, le domaine des anges, parce qu'il y a eu la chute de Satan, mais ça montre qu'on n'est pas des robots, que Dieu nous a fait avec une volonté de dire oui, de dire non, de refuser, d'accepter. Mais pourquoi j'amène ça? Parce que ce simple fait, c'est le fondement de notre foi. Parce que il y a juste Dieu qui a le pouvoir de dire que quelque chose soit, puis se l'est. Puis ça, c'est important, parce que savez-vous quoi? Dans le domaine spirituel, on n'est pas des créateurs. Tu sais, on voudrait que quelqu'un soit sauvé. On ne peut pas sauver cette personne-là. On peut prier pour cette personne-là. On peut supplier. On peut lui partager l'Évangile. Mais on n'est pas les créateurs de la vie dans qui que ce soit. Même dans nous. Et donc, ça, c'est important parce que justement, notre foi, elle n'est pas dans notre capacité, mais totalement dans celle de Dieu. C'est lui qui peut dire que la vie soit. Et c'est lui qui est capable de mettre la vie là où il y a la mort, la lumière là où il y a les ténèbres. S'il est capable de le faire dans le monde physique, effectivement, le parallèle se fait aussi dans le monde spirituel. Et j'ai un parallèle pour nous aussi, les enfants de Dieu. Si Dieu nous dit, si Dieu a déclaré que Christ est mort, puis qu'on est mort avec lui, c'est un fait, c'est Dieu qui l'a fait, il l'a déclaré. Puis si Dieu nous dit, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu, c'est les faits, c'est Dieu qui l'a fait. Ça ne peut pas être changé. C'est, je dois vivre à la lumière de ça. Dieu m'amène à accepter ces choses comme étant des faits et à vivre selon ça. Parce que quand que ça devient dur dans notre vie, quand on a des épreuves, quand on vit des choses qu'on ne comprend pas ou qu'on a de la misère à accepter, qu'on a de la misère à passer au travers, c'est à ça qu'on peut se rattacher. Les faits inchangeables de notre salut, de notre identité en Jésus. C'est ça la grâce de sa certitude. Dieu ne nous a pas donné des « quand dira-t-on », des « j'espère que ça va passer », non, il nous a donné des faits. Ta vie est cachée en Christ. Christ est ta vie. Ça ne peut pas changer. Tu es accepté dans le bien-aimé. Tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Take it to the bank. Tu peux littéralement baser ta vie là-dessus. Ça, c'est les faits de notre salut. OK? La grâce de la certitude. Et ça nous amène à la troisième grâce ce matin, non seulement celle de sa faveur, celle de sa certitude que Dieu nous donne, mais aussi la grâce de son ouvrage. Et On saute un peu pour aller jusqu'à la fin de notre passage, où est-ce que Marie dit, après qu'elle ait tout ça, là, puis là, elle a eu les informations sur Élisabeth, qui était enceinte aussi, puis que Dieu dit que l'ange dit que rien n'est impossible à Dieu. Au verset 38, c'est quoi sa réponse? Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. C'est spécial ici parce que lorsqu'elle dit « qu'il en soit fait selon ta parole », c'est une déclaration du don de soi, de l'abandon. C'est comme « OK, Dieu, c'est ton ouvrage. » Et n'est-ce pas ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10? « Nous sommes son ouvrage. » Puis remarquez ici que c'est vraiment une soumission de la foi. Là. Elle n'a pas toutes les réponses, elle ne comprend pas tout. Elle s'est fait expliquer qu'il allait avoir un miracle, mais elle n'a pas tout vu ça aller, mais elle le croit. Elle l'accepte par la foi. Puis en passant, il y avait un prix à cette foi. Ça voulait dire qu'elle allait probablement être exposée. Excusez. C'est sûr qu'elle allait être exposée à l'opprobre, mais ça pouvait même aller jusqu'à la mort. Elle pouvait être lapidée pour être une femme considérée adultère, parce qu'étant déjà fiancée, à tomber enceinte, c'était vu comme non seulement une opprobre, mais comme quelque chose de digne de mort. Donc, elle accepte ça par la foi, même en payant le prix, et ça découle directement de sa perception d'elle-même, son identité. Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis la servante du Seigneur. C'est une déclaration d'identité. Je suis quelqu'un qui se définit par étant une servante du Seigneur. Belle déclaration d'identité. C'est aussi ce que Paul comment il s'identifie à l'ouverture de ses lettres. Paul, serviteur. Savez-vous que le vrai mot, c'est esclave? C'est le mot aussi qu'elle aussi apprend. L'idée, c'est un esclave volontaire. Les doulos, c'était des esclaves qui, voyant que leur maître était bon, ils décidaient volontairement, là, de plein gré, de rester au service de leur maître, et ils se faisaient marquer l'oreille comme un poinçonner l'oreille comme étant distingué des autres sortes d'esclaves que d'autres avaient été vendus, ils n'avaient pas le choix. Les autres disaient, non, moi, je décide d'être esclave de cette personne-là parce que je suis bien traité, puis tout ça, c'est un choix volontaire. C'est comme ça ici, c'est un mot qui revient beaucoup dans le Nouveau Testament, qui est aussi dans l'Ancien l'équivalent, là. C'est un concept biblique. Et l'idée, c'est qu'elle est volontaire, quelqu'un qui a abdiqué à sa volonté pour joyeusement faire celle d'un autre. C'est pas quelque chose de pénible, c'est une joie. Ces commandements ne sont pas pénibles. Comment qu'on voit que c'est une joie? Oui, OK, ici, mais après, quand on suit ce qu'on on l'a lu, là, les versets 46 à 55, ce qu'on appelle le Magnificat, là, c'est-à-dire quand elle glorifie Dieu puis elle loue le Seigneur, elle est contente, elle se réjouit comme ça, d'être dans la volonté de Dieu, de faire partie de ce grand plan divin extraordinaire. Elle est incorporée pleinement à l'accomplissement de la parole de Dieu et c'est sa joie, c'est ça qui fait sa joie. Ça, c'est la mentalité d'une servante du Seigneur. Et comme illustration, je vous amène un autre que qu'on voit beaucoup dans le Nouveau Testament. En fait, quand on voit les que du Nouveau Testament, souvent, on voit que c'est des invitations. Pourquoi? Parce que c'est des choses que Dieu a déjà fait, mais qui nous amène simplement, il nous invite à y prendre part. Comme par exemple, quand il dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes », il nous a déjà donné sa lumière. On est des enfants de lumière. Donc, il nous invite à laisser cette lumière briller. Il nous a donné la plénitude en son Fils. Nous avons tout pleinement en lui. Il nous a donné la pensée de Christ. Puis quand il nous dit... Puis là, il y a différentes façons de traduire, mais « ayez en vous » ou « que », ok, on l'a déjà considéré dans Philippiens 2:5, « ayez en vous les sentiments, la pensée qui est en Jésus-Christ », c'est-à-dire on a déjà cette façon de voir Dieu, nous, les autres, le monde, laissez ça maintenant se manifester. Il nous invite simplement à laisser ces choses briller, ou pour le dire autrement, il nous invite à lui. Il nous invite à l'expérimenter. Puis là, je vous donne une façon avec laquelle il peut faire, pour on se dirige vers la conclusion avec ça. Lorsqu'on lit dans Colossiens, chapitre 3, verset 15, on a un de ces queues ici, ça dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Ici, le mot qu'il utilise par rapport à que la paix règne, c'est un terme d'arbitrage. C'est-à-dire que Dieu nous laisse le choix ou la possibilité de laisser la paix gagner. Et que on... C'est-à-dire laisser gagner l'arbitrage. Vous savez, c'est quoi de l'arbitrage? On a deux parties, puis l'un, OK, qui amène son point contre l'autre. Mais là, la paix va amener son point contre l'inquiétude. Puis là, c'est Dieu qui nous dit, bien, c'est lequel tu veux laisser gagner? L'idée, c'est Dieu qui nous met les deux éléments comme ça, puis il nous dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Un peu comme avec Marie, qui se fait dire, OK, tu vas devenir enceinte. Puis là, oh, sûrement qu'elle avait toutes sortes d'inquiétudes dans son cœur. Des questions non répondues, puis là, elle demande la question, bien, comment ça va se faire? OK? Donc, pour le dire autrement, Dieu nous fournit la paix et nous, on fournit le consentement. On dit, OK, Seigneur, je vais te faire confiance. On fournit la réponse de la foi. Donc, lorsque Marie affirme, OK, c'est beau, je suis la servante de mon Seigneur, qu'il soit fait selon ce que tu as dit, selon ta parole, bien, c'est bon pour nous tous. Parce que notre disponibilité ouvre la porte ou donne accès à la capacité surnaturelle de notre Dieu. Dieu, dans le fond, il permet des choses dans notre vie, comme ici avec Marie, puis il nous dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas-tu laisser ma paix régner? Tu vas-tu me faire confiance? Est-ce que tu vas me laisser faire ce que je veux faire? Ou tu vas laisser l'inquiétude, puis là, qu'est-ce qui arrive? L'inquiétude va mener à un désir de contrôler, puis un désir de contrôler va amener plus de peur, puis là, La chaîne débarque. Ou pour le dire dans les mots de Paul, à 1 Corinthiens 15, 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Autrement dit, Paul dit, si j'ai fait de quoi, c'est pas moi, c'est la grâce de Dieu qui l'a fait en moi. C'est ça le privilège, la joie d'avoir la grâce d'être son ouvrage, que Dieu fasse son œuvre en nous, à travers nous. Et ce que Dieu nous demande simplement, pour que ça arrive, c'est d'y faire confiance. On n'aura pas toutes les réponses, on ne saura pas tout le comment. Puis Dieu peut nous en donner du comment, mais il veut surtout qu'on lui fasse confiance. Donc ça m'amène à conclure notre message avec ceci. Dans le fond, Dieu ne nous appelle pas à essayer de faire de tous nos efforts par notre propre force, mais plutôt à le laisser faire. À le laisser travailler en nous, à travers nous, à des récipients, des canaux de sa grâce. Je donne un exemple bien concret. Tant que Dieu a mis quelqu'un sur votre chemin qui n'est pas très aimable. En fait, j'avais vraiment de la misère à l'aimer. En fait, pour être honnête, vous ne l'aimez pas pantoute. Soyons honnêtes un matin, là, OK? Mais on peut être honnête aussi avec le Seigneur et dire, « Seigneur, tu veux aimer cette personne à travers moi. » OK? Ça, c'est vrai aussi. Mais moi, je ne ressens pas d'amour cette personne-là. En fait, je me sens totalement incapable d'aimer cette personne-là. Mais toi, tu peux faire infiniment au-delà de ce que je demande et de ce que je pense. Toi, Dieu, tu es capable. Amen. Rends-moi juste disponible. Et ça, c'est ça la grâce de Dieu, c'est ça la grâce de son ouvrage, la grâce de sa faveur, la grâce de sa certitude, que je peux être certain que quand je dis ça à Dieu, Dieu il est totalement disposé à ça, là. C'est ce que Dieu veut. Là. Puis je vais avoir la grâce d'être son ouvrage. Puis c'est pourquoi c'est pareil pour le pardon. Dieu, je ne suis pas capable de pardonner. Dieu, je suis pas capable de souffrir à travers ces situations. Dieu, je ne suis pas capable. Tout ce que Dieu veut, c'est de Dieu, je ne suis pas capable, mais toi, tu es capable. C'est pas très compliqué, là. C'est pas compliqué en théorie, mais en pratique, c'est d'être vrai avec ça, puis dire, Dieu, la réalité, moi, je suis pas capable. Mais je prends mon identité vraie. En toi, je peux tout par celui qui me fortifie. Toi, tu es capable, puis tu vis en moi, puis tu veux le faire en moi, puis tu m'aimes, peut-être, cette personne-là, tu veux te glorifier là-dedans. Dieu, je m'accroche à ça. Ça, c'est la vérité. C'est ce que je prends pour moi dans cette situation. Et la fidélité du Dieu de l'incarnation, elle est la même. Celui qu'on a vu il y a 2000 ans, Jésus qui est né comme ça à travers une petite madame bien ordinaire de la Judée, ben il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, on peut se confier en lui. Puis, il est aussi le même qui veut se faire connaître non seulement à ses enfants comme ça, comme Marie, mais aussi qui veut se faire connaître aux perdus, comme avec Jean-Baptiste qui est envoyé pour faire préparer la voie du Seigneur, puis pour ramener les cœurs de ceux qui étaient égarés. Et Jésus lui-même de dire, connaissez-vous, j'espère, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu dans les versets par cœur, il y a un bout de temps, je pense qu'il y en a qui l'ont dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Savez-vous, c'est une invitation perdue dans le contexte de Matthieu 11, mais ça s'applique aussi même aux enfants de Dieu. C'est une invitation autant à ceux qui connaissent Dieu que ceux qui ne le connaissent pas encore, pour qu'on trouve en lui la plénitude de sa grâce. Parce que Jésus est celui qui est venu nous donner la grâce de Dieu. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, c'est quoi ta réponse à cette grâce ce matin? Tout est accompli. La grâce de Dieu a tout accompli. Dieu met devant nous ce matin l'occasion de répondre à cette grâce, de bénéficier de cette grâce, de jouir de la personne de la grâce qui est Jésus-Christ. Donc, mon invitation, c'est simplement d'aller à celui qui est plein de grâce et de vérité, puis qui, ce matin, veut se donner à nous. Seigneur, merci que tu es celui qui se donne sans cesse. Tu es généreux, tu es bon de ta personne. Tu nous parles, tu nous réconfortes. Et Seigneur, on veut ajouter foi à ce qu'on a entendu ce matin. On est faible. On est dans le besoin. Mais tu es tout puissant et tu es débordant, généreux. Donc, par la foi, Seigneur, on regarde à toi. Merci que tu es totalement suffisant pour toute chose. Ta grâce est suffisante. Merci, Seigneur. Merci de nous rencontrer là où on est rendu. De ne pas attendre qu'on soit rendu à un niveau acceptable avant qu'on puisse venir à toi. Non, Seigneur, tu nous dis de venir à toi même justement quand on est fatigué et chargé, quand on est à bout, ou quand on est confus, quand on n'a pas toutes les réponses, comme Marie avait tellement de choses qu'elle devait se demander. Merci que tu nous invites à toi. Pas à un livre, pas juste à un intermédiaire, mais à toi-même, directement. Merci, Père, d'avoir donné ton Fils. Merci que l'Esprit nous rappelle toutes choses, nous conduit dans toute la vérité. On te remercie, Seigneur, de ce temps ce matin, faisant porter du fruit éternel à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.